Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 Dans la vie est un roman. Et ce matin, nous allons parler de deux livres. Le premier a été écrit par Dominique Ozel et s'appelle « Ouvrier artisan du beau ». Selon Caillebotte, le roman d'un chef-d'œuvre, c'est le nom de la collection. Et il a été publié aux ateliers Henri Dougier. Nous avons Dominique Ozel au téléphone et je vais le saluer. Bonjour, monsieur Ozel.
Bonjour.
Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce livre sur Caillebotte ? Qui est Caillebotte ?
Alors peut-être avant de parler de Caillebotte, nous sommes en 2024 et 2024 est l'année d'une double commémoration. C'est le 150e anniversaire de la première exposition de peintres impressionnistes et c'est également 2024 le 130e anniversaire de la mort de Gustave Caillebotte. Alors, Gustave Caillebotte a passé 20 ans à défendre, soutenir et financer le travail de ses amis peintres, et lui aussi, en tant qu'impressionniste, à produire une œuvre conséquente de plus de 450 tableaux. Des tableaux pour certains qui sont iconiques, même si cet artiste est moins identifiable que d'autres peintres tels Renoir, Degas, etc. Et 2024 est aussi une année importante, puisqu'il y a eu une exposition autour, donc, je dirais, de l'impressionnisme au premier semestre donc de cette année à Orsay. Et là, a démarré la semaine dernière une grande exposition « Caillebotte, peindre les hommes » au musée d'Orsay, une exposition événement qui va se dérouler jusqu'au 19 janvier 2025 et qui va donner un coup de projecteur exceptionnel sur l'homme et l'artiste. Et cette exposition, elle prend pour sujet la prédilection de Gustave Caillebotte pour les figures masculines. Et c'est un angle d'attaque qui est particulier. Peut-être y revenir, mais Caillebotte a peint énormément de thèmes, de sujets liés à ses passions, etc. Mais là, on est vraiment dans la représentation de l'homme chez Caillebotte. Et donc cette exposition qui a démarré il y a une semaine, déjà draine énormément de monde. Et cette exposition, à l'issue de sa présentation à Orsay, à Paris, partira en début d'année prochaine, 2025, à Chicago, et ensuite à Los Angeles. Voilà.
Et donc,
une exposition qui a été organisée à la fois par le Getty Museum de Los Angeles, l'Art Institute of Chicago et le musée d'Orsay. Donc ça montre aussi que cette exposition, elle va permettre à ces trois musées de montrer des œuvres de Picasso qui sont dans les collections permanentes de ces musées. Voilà un petit peu le pourquoi de ce livre. Et ce livre s'inscrit, vous l'avez dit, dans la collection qui s'appelle « Le roman d'un chef-d'œuvre » aux ateliers Henri Dougier. Et c'est vrai que la collection « Le roman d'un chef-d'œuvre », elle raconte la véritable histoire, on pourrait dire même la véritable saga d'un tableau, en le mettant en scène à l'époque et dans le moment, même le lieu où il a vu le jour. Et c'est des ouvrages qui, lorsqu'ils sortent, souvent liés à des expositions, à des commémorations, sont complémentaires des catalogues d'expositions qui sont toujours importants. Hein. D'ailleurs, le catalogue d'expositions du musée d'Orsay, Caillebotte peintre les hommes, est remarquable. Il reprend évidemment ce qui est exposé au musée d'Orsay avec des textes très très intelligents. Mais ce sont des démarches, je dirais, muséologiques avec des historiens de l'art, qui parle, je dirais, de façon scientifique de l'œuvre de Caillebotte. Dans la collection Le roman d'un chef-d'œuvre, les auteurs prennent des libertés et racontent une histoire, des histoires autour d'un tableau, d'un peintre, mais toujours avec une part de réalité et autour de choses plausibles. Voilà, il ne s'agit pas d'inventer, on n'est pas dans de la fiction, mais on peut se permettre parfois d'émettre des hypothèses, et plutôt que de dire « je pense que ce tableau a été peint comme ceci, comme cela », on peut s'imaginer être le peintre et expliquer comment est né le tableau, pourquoi, etc. Voilà. Donc cette collection, qui est très appréciée, hein, qui fonctionne bien, est tout à fait complémentaire, je dirais, des catalogues d'exposition, des ouvrages aussi autour d'un peintre, hein, parce que ça permet aussi, et je pense peut-être dans le livre que j'ai publié, « Ouvrier artisan du beau », qui évidemment est consacré au tableau célèbre de Caillebotte, « Les raboteurs de parquet », ça permet de donner un autre regard sur un tableau qui est devenu iconique. Voilà, il y a des éléments dans ce tableau qui peuvent être étonnants, et on essaye, lorsqu'on est un écrivain, un auteur, d'imaginer des choses. Voilà. Donc cette collection, le roman d'un chef-d'œuvre, qui compte maintenant plus d'une trentaine de titres, est une approche parfois un peu peut-être cinématographique ou théâtrale d'une œuvre, et permet au lecteur, lorsqu'il est face au tableau, de se dire « ah ben ça, je n'y avais pas pensé, ah oui, ça c'est possible », etc. Donc c'est un peu la liberté de l'auteur qui peut entraîner le lecteur et ensuite le spectateur devant la toile de voir différemment l'œuvre d'art.
Voilà ce que, et donc,
ce que
oui.
Je peux dire, si vous voulez, sur la collection, sur le livre et sur cette année 2024 qui est vraiment l'année Gustave Caillebotte, quelqu'un qui a été redécouvert en France dans les années 1970. Avant, c'est un artiste qui était plutôt considéré comme un collectionneur. C'était quelqu'un d'assez riche, qui avait une belle fortune, mais qui n'était pas un dilettante, par contre, et qui, toute sa vie, a pu vivre ses passions, n'a jamais eu besoin de vendre ses toiles comme ses amis impressionnistes. Donc, à l'abri, je dirais, de tout problème financier, il peignait, hein, il a peint, je vous l'ai dit, plus de 450 œuvres. Et surtout, il a été la personne qui a permis aux impressionnistes de travailler, d'avoir parfois leur tube de peinture payé. Il a financé leurs expositions. Il a même acheté leurs toiles bien au-delà de la valeur d'alors, juste pour les aider, pour les accompagner. Et d'ailleurs, près de 70 de toiles qu'il a pu acquérir, que ce soit de Renoir, de Degas, etc., il a voulu, par testament, les léguer à l'État, ce qui ne s'est pas fait forcément facilement, parce qu'à l'époque, cette peinture dite impressionniste n'était pas peut-être dans les canons d'alors, au niveau des grands chantres des Beaux-Arts. Et il faudra plusieurs années pour que ces toiles puissent aller dans un musée. C'est ce que voulait Caillebotte. Et donc, Caillebotte a souvent été ramené à un collectionneur, à quelqu'un qui a favorisé le mouvement impressionniste. Et d'ailleurs, dans les toiles qu'il va donner à l'État, il n'y aura absolument aucun de ses tableaux. Il considérait qu'il n'était peut-être pas à la hauteur, je dirais, de ses amis. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui s'est mis en avant toujours. Voilà. Quelqu'un d'un petit peu secret aussi, et qui avait énormément de passion, hein. Il était un grand philatéliste avec son frère Martial. Il adorait l'horticulture, le jardinage. Il avait une serre avec des collections d'orchidées rares et des plantes aussi exotiques. C'est quelqu'un qui était un grand régatier. Il a énormément œuvré, je dirais, pour tout ce qui est yachting, etc. Il a même construit des bateaux. Voilà, c'est quelque chose de prodigieux. Voilà, cette passion du bateau qui développe sur la Seine ne cessera de croître. Et c'est avec Alfred Sisley, un peintre important, qu'il va la développer, hein. Donc il se passionne aussi pour la vitesse, il cherche à perfectionner les bateaux. On peut dire qu'il a été un architecte naval, hein, mais il va inventer des choses aussi importantes qui vont permettre, je dirais, à cette discipline du yachting de s'améliorer. Voilà. Autre chose aussi, il va être un grand philatéliste. Hein. Il sera aussi avec son frère Martial, qui était vraiment, je dirais, avec lequel il entretenait des rapports plus que fraternels. C'était vraiment deux personnes qui vivaient leur passion ensemble et qui étaient extrêmement liées. Il va rassembler vers 1877 une collection de timbres qui sera la plus grande et la plus belle collection en France alors, avec des timbres très 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 rares. Hein. Collection qu'il arrêtera ensuite et qu'il revendra, non pas pour de l'argent, mais parce que voilà, il s'adonnait à autre chose. Voilà. Et enfin, il va aussi collectionner les céramiques, les faïences et principalement celles de Nevers pour décorer son appartement. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui aimait le beau, qui avait de multiples activités, qui était extrêmement tourné vers les autres, que ce soit ses amis impressionnistes ou même tout un chacun, parce qu'on le voit dans ses tableaux, on le voit dans les raboteurs de parquet, on le voit dans d'autres tableaux où il peint des gens qui se promènent dans Paris. Voilà, c'est quelqu'un qui avait un regard, je dirais, bienveillant sur ces personnes qui pouvaient traverser sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais payé de modèle pour peindre. Il a toujours peint les gens pour ce qu'ils étaient. Voilà, donc sa famille, des artisans, des passants dans ce Paris haussmannien qui change. Donc il y a chez lui toujours de vouloir capter la réalité un peu prise sur le vif, telle que le feront un petit peu plus tard les photographes, comme Doisneau, etc. Voilà, c'est un peintre, lorsqu'on regarde ses tableaux, qui a une façon de mettre en scène ses sujets presque avec un cadrage photographique, avec des angles de prise de vue photographique. Mais c'est plutôt, et puisque son frère était aussi un grand photographe, il l'a dit, hein, c'est pas moi avec mes photos qui inspirait Caillebotte, c'est Caillebotte, mon frère, qui par ses cadrages audacieux m'a poussé à faire de la photographie et avoir un autre regard sur la réalité au travers des photos que je faisais. Il y a des tableaux de Caillebotte, notamment Paris par temps de pluie, où le couple, hein, c'est un tableau célèbre, où on voit un couple qui tient un parapluie et derrière il y a un immeuble haussmannien, c'est un tableau un peu mythique, hein, de Caillebotte. Hein. Et les deux personnages, le couple, ils sont cadrés, si vous voulez, leurs jambes sont coupées. Donc c'est quelque chose d'inattendu dans la peinture. Il n'y a pas ce côté théâtral qu'on pouvait avoir dans la peinture. Voilà. Donc tout ça pour dire que Caillebotte était quelqu'un qui avait de multiples passions, qui a eu des combats pour permettre à l'impressionnisme à la fois d'exister et de perdurer. Et c'est ce qui a occulté un peu le grand peintre de nombreux chefs-d'œuvre qu'il a pu réaliser, d'être mis sur le devant de la scène. Et les peintres impressionnistes ont rapidement intéressé et interpellé les Américains et les riches collectionneurs américains qui ont vu dans cette peinture quelque chose de novateur, mais qui aussi voulaient faire des placements d'argent et qui ont acheté beaucoup de toiles impressionnistes. Et d'ailleurs, beaucoup de tableaux de Caillebotte aujourd'hui sont exposés dans des musées américains ou sont dans des collections privées américaines.
Je vous interromps juste une seconde.
L'exposition d'Orsay permet justement de voir...
Vous m'entendez ?
De Caillebotte qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en un seul et même lieu, et pour certaines qui sont dans des collections privées. Voilà.
Donc, excusez-moi une seconde, on a un jingle qui va passer. Une seconde.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Excusez-moi de vous avoir interrompu. Et donc, je viens de lire un article virtuose d'un dénommé Jean Clé sur Édouard Manet. Et ça me fait penser, on pourrait parler des critiques de Zola sur les raboteurs. Hein. Oui. Il dit que c'est une toile anti-artistique, propre, une glace, que c'est une toile bourgeoise à force d'exactitude qui décalque la vérité. Et donc, on a aussi cet aspect, c'est vrai que la référence photographique est très forte, et il y a par exemple une toile où il fait une plongée sur un boulevard et on voit un arbre et un banc en bas, qui n'a de sens que dans un cadrage photographique, effectivement. Mais on avait déjà des décadrages chez Degas et tout ça, et donc on peut aussi comprendre pourquoi il n'était pas considéré à l'égal des impressionnistes, puisqu'il ne faisait pas un travail proprement pictural sur la touche, sur la peinture, il était plutôt dans une autre problématique. Il est entre l'académisme et...
Puisqu'il va énormément peindre des tableaux en extérieur et de nature. Hein. D'ailleurs, oui. Pourquoi l'impressionnisme naît ? Il naît l'impressionnisme parce que les tubes de peinture métallique sont mis sur le marché. Et donc, on n'a plus besoin d'avoir des peintures qui mettent du temps à sécher. Les peintres, un peu comme les cinéastes de la Nouvelle Vague avec des petites caméras, peuvent sortir de leurs ateliers. Et c'est ce qui leur permet de reproduire, je dirais, la nature et des choses qui ne sont pas des choses forcément académiques, justement. Et pouvant peindre du matin au soir, la lumière est différente, les couleurs apparaissent différemment. Donc c'est pour ça que ces peintres vont être des peintres un peu de la touche, de la couleur. C'est vrai que les premiers tableaux de Caillebotte sont plutôt dans des tons, je dirais, un peu sombres. Mais quand même, il y a des tableaux de Caillebotte qui sont très lumineux. Et vous parliez de Zola. Oui, Zola va éreinter le tableau « Les raboteurs de parquet ». Peut-être parce qu'il considérait que Caillebotte était un bourgeois très riche et qu'il n'avait pas le droit ou la légitimité de peindre des simples ouvriers, peut-être. Bon, quelques années plus tard, il reviendra sur cette réflexion un peu dure qu'il a eue sur Caillebotte et sur son tableau des raboteurs en disant tout le bien qu'il pensait de l'artiste. Voilà, comme quoi il faut un petit peu de temps pour admettre ou comprendre,
oui, mais comprendre les choses. Je suis d'accord avec l'interprétation.
Dans son testament, lorsqu'il veut donner à l'État ses tableaux, il dit je comprends qu'il faudra un petit peu de temps pour que l'État et tout un chacun comprennent ou admettent cette peinture. Voilà. Il ne s'agit pas de l'accepter et de l'aimer. Mais il faut la comprendre, surtout l'admettre.
Et j'ai une autre question. Donc, je suis d'accord avec la lecture « Lutte des classes » sur l'intervention de Zola, mais ça pose la question. Enfin, le rapport à Manet, mais il y a aussi le rapport à Cézanne. Enfin, tout ça est très riche en arrière-fond. Mais Martel a parlé, enfin, sur France Culture... Frédéric Martel, qui fait une émission tous les dimanches de 18h à 20h, a parlé d'exposition et il disait qu'il n'avait eu aucun rapport avec des femmes. Et donc là, ce qui m'intrigue, c'est sa maîtresse. Il vit avec sa maîtresse et deux marins. Et donc son frère se fâche avec lui, ne veut plus le fréquenter parce qu'il n'est pas marié. Et comment vous voyez sa sexualité, vous ? Qui avait fréquenté...
Son frère a toujours voulu voir son frère Martial a toujours voulu le voir et il l'a vu, mais c'était la femme de son frère qui était très croyante, très religieuse et qui interdisait à son frère de voir Gustave. Mais il se voyait en cachette à Paris. Et Caillebotte donc a vécu avec une personne un peu plus de 10 ans à la fin de sa vie. Alors, une personne un petit peu mystérieuse, on ne sait pas trop de choses d'elle. Bon, Voilà, c'est une personne qui a accompagné Caillebotte. Bon, voilà. Et on peut avoir des hypothèses. C'est vrai que la représentation de Caillebotte du nu masculin peut-être donner l'impression qu'il y avait chez lui, au-delà d'une volonté de dessiner et de peindre les modèles, hein, un petit peu comme dans des scènes mythologiques, puisqu'il a travaillé longtemps, enfin il a été dans l'atelier de Bona, qui avait une vision un petit peu, je dirais, michelangelesque de la structure du corps humain dans les tableaux. Je pense que chez lui il y a quand même quelque chose d'un petit peu mystérieux, ce qui laisse supposer que peut-être Gustave Caillebotte, à qui on n'a connu aucune relation amoureuse outre sa relation avec cette personne qui s'appelait Charlotte Berthier. Mais Charlotte Berthier était un pseudonyme, hein. Elle était de 15 ans sa cadette, hein. Et il va vivre discrètement avec elle. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'avait pas une attirance physique pour l'homme et pour les hommes, voilà. Il y a certains de ses tableaux qui sont un petit peu étranges, où il a peint à plusieurs reprises certaines personnes, et parfois dans des positions un petit peu lascives. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire dire à Charlotte Berthier dans mon livre, où elle se pose des questions. Voilà, elle se demande si, mais bon, on n'en sait rien. On peint bien un homme dans une position un peu lascive et nue, qu'on est forcément attiré par les hommes. Mais ce côté mystérieux de Gustave pourrait laisser envisager ça, et il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus. Mais ne voir que l'œuvre de Caillebotte par ce trou de serrure serait une erreur totale. Voilà.
Mais oui, le côté photographique fonctionne bien, et cette peinture est raccord avec une certaine peinture américaine qui commence au début du 19e siècle et qui est aussi qui va se structurer sur un modèle photographique et qui va représenter des classes sociales beaucoup plus variées, oui, qu'en Europe. On peut comprendre le goût des Américains pour lui.
Pardon ?
On peut comprendre le goût des Américains pour lui.
Oui,
on peut,
tout à fait. Comprendre. D'ailleurs, vous regardez un tableau d'un peintre comme Edward Hopper, je trouve qu'il y a des similitudes, parce que souvent dans les tableaux de Caillebotte, les personnages sont de dos, regardent à l'extérieur, sont plutôt dans le hors-champ, ce qu'on a aussi énormément chez Edward Hopper. Donc je pense que Edward Hopper a énormément apprécié Vermeer, qui lui aussi est dans le cadrage, le recadrage, et des personnages qui sont un petit peu isolés. Et je pense qu'il a dû apprécier les tableaux de Gustave Caillebotte, qu'il a dû voir dans des musées dont il avait connaissance. Donc c'est aussi intéressant. Et je pense, pour revenir à cette hypothèse d'une possible homosexualité de Gustave Caillebotte, c'est souvent les personnages sont seuls, si vous voulez, dans une solitude, et comme pouvaient l'être les homosexuels alors, où on ne pouvait pas s'affirmer tel que. Ça viendra un petit peu plus tard dans certains milieux artistiques, etc. Mais à l'époque de Caillebotte, ce n'était pas possible.
Oui, c'est pas linéaire. Voilà. C'est pas linéaire, et ça dépend des époques. Oui, par exemple, sûr, c'était bien vu chez les Grecs. Donc c'est pas ça dépend des endroits, des époques, et effectivement
bien sûr,
de la classe sociale. Oui. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre avec deux marins chez soi. Ouais. Il faut avoir les moyens de les entretenir. Et donc j'étais à la visite de presse, et votre livre est bien présent à la librairie de d'Orsay. Et la visite était très gratifiante. C'est une très belle exposition. Et c'est amusant parce qu'à côté, il y a une exposition d'Ariette Bécher, qui est une dame j'y suis passé assez vite, mais qui a l'air de n'avoir fréquenté que des dames. Oui. Donc il y a un phénomène d'époque aussi sur les modes.
C'est amusant. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a 2 ans, il y a eu une très très belle exposition Rosa Bonheur, à Orsay également, cet artiste qui est énormément connu aux États-Unis, qui a peint des animaux, notamment des bovins, etc., et qui, elle, bon, s'affirmait homosexuelle, était la seule femme qui s'était donné l'autorisation d'être en pantalon, alors c'était interdit. Bon, et vous voyez, bon, c'était une personne qui était voilà, homosexuelle, qui a vécu au moins deux passions amoureuses avec des femmes, mais bon, elle n'a pas peint des femmes nues, vous voyez, donc voilà, mais simplement ce que je veux dire, c'est que Orsay a mis en avant deux artistes, il y a deux ans Rosa Bonheur et cette année Gustave Caillebotte, qui sont des artistes énormément connus et appréciés aux États-Unis, et plus qu'ils ne l'ont été en France. Alors maintenant ça change, hein. Gustave Caillebotte, il y a des livres qui sont sortis à l'occasion de l'exposition, le catalogue d'exposition qui est vraiment magnifique, des livres aussi qui reprennent des reproductions. Bon, il se trouve, mon livre est aussi complémentaire parce qu'on est plus dans un roman, mais voilà, je vais dans quelques librairies pour faire des dédicaces, des rencontres et des présentations. Et c'est vrai que les libraires mettent énormément en avant tous ses ouvrages sur Gustave Caillebotte.
Mais parce qu'il a un côté académique, hein, académique peut plaire au public, c'est paradoxal. Oui. Mais vous êtes un spécialiste du cinéma.
Alors moi, j'ai plutôt travaillé sur le cinéma. Et
parce qu'il y a un côté cinéma expérimental.
On aime le cinéma et qu'on aime Gustave Caillebotte. Oui. Voilà,
il y a un côté Bill Viola, il y a un côté cinéma expérimental, il y a un côté... Il y avait toute une école dans les années 60 de films américains qui se passaient à la campagne avec des lits à baldaquins et des scènes des satyres et dedans et des jeunes filles. Il a un côté... ça pourrait fonctionner dans un certain cinéma expérimental.
Oui, mais pas que expérimental. Il y a 3-4 ans, il y avait eu à Orsay une belle exposition sur... je ne me rappelle plus le titre, mais c'était en fait... ce que la peinture a apporté à l'invention du cinéma.
Je crois excellent.
Que le cinéma avant le cinéma. C'était Dominique Paini qui était le commissaire d'exposition de cette belle exposition. Et il y avait un tableau de Caillebotte où on voit du linge qui sèche, qui est un très beau tableau, pour montrer que les peintres arrivaient à transcrire le mouvement dans une toile, alors que c'est une toile figée, mais on a l'impression que ce linge bouge. Et l'allusion, c'était qu'aux premières représentations du cinématographe Lumière des Frères Lumière, les spectateurs étaient étonnés de voir le détail qu'il y avait dans l'image, et leur première réflexion, c'était « Waouh, c'est formidable, il y a même les feuilles dans les arbres qui bougent ».
On va finir là-dessus, excusez-moi.
Gustave Caillebotte a donné cette dimension, je dirais, du mouvement qu'on a dans les raboteurs aussi. Les raboteurs, il y a trois raboteurs. On suppose que peut-être qu'il n'y en avait qu'un, mais qu'il en a mis trois pour montrer une décomposition du mouvement. Il y en a un qui racle, l'autre qui rabote, etc. Voilà.
Merci. On va devoir arrêter là. Vous étiez très très bien.
Pas sur la toile.
Excusez-moi, on va arrêter là. Merci. C'était formidable, votre petit exposé magistral. Et donc, je mettrai toutes les références du livre sur le podcast en ligne. À bientôt. Au revoir.
Au revoir, merci de votre confiance.
try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein. And I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know, and I guess that I just don't know. Try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death, now you can't help me, not you guys or all you sweet girls with all your sweet talk. Because a man to my vein needs to a sinner in my head, and then I'm better off than dead.
Et maintenant, nous allons parler d'un autre livre publié aux excellentes éditions Mediapop, un livre de Florence Andoca, qui s'appelle « Soleil synthétique, une vie rêvée d'Eddie Sedgwick en 28 plans ». Bonjour Florence.
Bonjour Yves.
Et donc on va se dire tu, pour être cohérent avec la façon dont ton livre est écrit et les rapports humains qu'on a, toi et moi.
Très bien.
Et donc j'ai trouvé ton livre remarquablement bien écrit, bien édité. Il dégage une musique formidable, comme ce qu'on vient d'entendre évidemment. Et donc, il a un rythme excellent et il est basé sur le « tu », la formule stylistique. C'est que tu parles à ton héroïne et tu lui dis « tu ». Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par expliquer qui est ton héroïne, si tu veux.
Alors, merci Yves, merci beaucoup. Alors, mon héroïne, effectivement, Eddie Sedgwick, qui est une figure... de la contre-culture new-yorkaise, des années 60-70. Elle meurt en 1971. Et elle a fait partie des superstars d'Andy Warhol et elle a fréquenté la Factory. Elle a été un temps la maîtresse de Bob Dylan, une des muses de Patti Smith. Et elle était évidemment une des comédiennes de Warhol. Et voilà. Voilà qui est Edith Sedgwick, qui est... Moi, je me suis attachée à elle justement par cette question de son statut qui est un petit peu ambigu. Elle est comédienne, elle est mannequin. De dire finalement, enfin pour moi, que ça avait aussi de l'intérêt, ce travail de l'apparence, ce travail de l'apparition, quelque part entre la mode, la performance. Quelque chose qui, quelque part, anticipe peut-être aujourd'hui le travail des influenceuses, par exemple.
On a une icône pop, en fait. Tu décris une icône pop.
Ouais, une icône pop, une extravagante. Quelqu'un dont la présence fait œuvre, quelque part.
Oui, mais c'est vrai, c'est même des représentations pop, en fait. Si on prend l'invention du pop en Angleterre, du pop art avant les États-Unis... C'est Elvis Presley, par exemple. C'est des choses qui ont à voir avec la représentation, toujours. Et, ouais. Et le Elvis Presley, qui est à la fois acteur de cinéma, chanteur et icône. Tu vois ce que je veux dire ? Peter Blake, qui fait une pochette pour les Beatles. Un peintre pop. Et dans ce sens-là, elle sort de cet imaginaire, en fait. Elle est choisie par Warhol, mais elle s'y inscrit parfaitement.
Oui, et d'ailleurs, le mannequin anglais Twiggy, donc qui faisait un peu sensation par son allure, ses cheveux très courts, sa minceur, voilà. En fait, a été, c'est ce que j'ai compris un petit peu en lisant des choses, que son allure à Twiggy avait été construite par des professionnels, mais je crois qu'elle a été construite à partir d'Edith Sedgwick, en fait. Qui, elle, s'était construite toute seule et avait choisi cette coupe, ses très grosses boucles d'oreilles, ses jambes très fines qu'elle exposait beaucoup.
Dans le même ordre d'idée, puisqu'on vient d'entendre Lou Reed, on peut prendre Nico. Dans la construction d'images, comme ça marche pour chacun des personnages dans l'environnement de Warhol, bien sûr.
Ouais, mais ce qui m'intéressait, c'est que c'est... Pour le coup, elle est... Enfin, le cœur de son travail est là, quoi, vraiment. Et pas sûr, elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas... Voilà, elle est vraiment une apparition, quoi. Et une fille une extravagante, qui vide cette allure et reconnaît que c'est un travail, que c'est une construction. Et que c'est intéressant, en fait.
Et en passant...
Et que c'est pas une image de muse passive. Je trouve qu'on associe trop souvent, en fait, une idée de passivité aux figures comme ça, iconiques, alors qu'en réalité, il y a un travail, il y a de la référence, il y a une construction, quoi.
Ouais, si on fait une histoire sociale de l'art, ça fonctionnerait aussi avec d'autres exemples. En même temps, donc, en passant, tu parles des mœurs de Warhol, et donc il prend les gens, puis il les jette après. C'est les gens célèbres, c'est comme ça, ils facodissent les autres, ils leur sucent le sang, puis ils les jettent.
C'était l'idée, ouais, d'avoir Warhol dans une incarnation sous une facette négative. Après, je pense que bien sûr, c'est à nuancer. Et moi, ça m'intéressait parce que je trouve que Warhol a plutôt une image positive. Donc ça m'amusait d'aller plutôt dans l'autre sens et d'avoir... parce que ça reste une fiction, mon texte reste une fiction. Hein, on n'est pas du tout dans...
Alors,
dans
on a pas, c'est pas du tout le sentiment qu'on a, tu vois. On a le sentiment, au contraire, d'un récit autobiographique très tenu et d'une histoire tragique, en fait.
Bien sûr, c'est une histoire tragique. Après, quand je dis c'est pas une biographie scientifique, c'est au sens où je pars des éléments, des documents que je trouve, des informations. Je les hiérarchise pas. Hein. Je suis pas une personne qui se rend, qui prend l'avion pour aller voir des fonds d'archives aux États-Unis ou pas du tout. Moi, je travaille sur les traces et sur ce qui reste, ce qu'on a de commun en fait autour d'une figure, donc ce qui est accessible quand même assez facilement. Et de voir en quoi cette trajectoire elle peut être quelque part mise en fiction parce qu'elle aurait quelque chose qui à mon sens est porteur et donc tu parles de tragédie donc aussi de d'exemplarité de un récit dans lequel on peut se projeter qui a presque quelque chose du mythe finalement.
Est-ce que tu veux faire un résumé rapide de son existence ou pas rapide?
Alors Rui, elle naît dans une famille, donc elle naît aux États-Unis, mais pas à New York, elle naît dans une famille très riche. Mais dans une famille assez difficile, elle a des frères qui deviennent alcooliques, un qui se suicide, elle est très tôt anorexique, psychiatrisée, son père aussi a des troubles psychiatriques, et elle quitte à un moment donné tout ça pour aller à New York. Elle a envie d'être mannequin, elle a envie, voilà, elle a envie d'être dans la lumière finalement, cette jeune femme, et elle rencontre Diana Vreeland, qui lui fait faire des photos de mannequins, etc. Et ensuite, elle rencontre Andy Warhol, elle rentre dans la factory, et à un moment donné, il y a une rupture, et avec Andy Warhol, qui effectivement a fait le tour et du jour au lendemain ne l'aime plus, en fait, et dit des choses très très dures. Donc tout le monde est évidemment drogué, etc. Et il dit, ça je l'ai vraiment trouvé, il dit, Eddie va bientôt se suicider, il faudrait qu'on aille la filmer. Donc voilà, il est très dur comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes, en fait, assez tôt à la factory. Et ce qui aussi remet, je trouve, dans un certain paysage et un certain contexte, le geste de Valérie Solanas, qui tire sur Andy Warhol en 68. Et donc Eddie Sedgwick, elle, à un moment donné... rupture avec Warhol, rupture avec Dylan qui épouse Sarah. Voilà. Et elle a un accident, elle perd l'enfant qu'elle portait de lui apparemment, et donc elle repart en fait, elle quitte cet endroit. Elle va faire une cure de désintoxication, et c'est dans cet espace-là qu'elle rencontre l'homme qui deviendra son mari. Et en fait, ils vivent pas très longtemps ensemble. Elle décide de faire un film pour raconter son aventure à New York, Ciao Manhattan. Et elle meurt en fait dans des conditions un peu troubles, où elle s'était mise à prendre beaucoup de médicaments antidouleurs suite à un accident qu'elle avait eu. Et apparemment, son mari, dans la dernière nuit qu'ils passent ensemble, lui donne ses médicaments. Et elle arrête de respirer pendant la nuit. Et le matin, elle est morte. Et donc, lui, c'est lui qui lui a donné ses médicaments. Et donc, elle avait quand même un passé... enfin, d'addiction, quoi, c'est forte, c'est importante, et elle a 28 ans, elle arrête de respirer, il appelle pas les secours, enfin, voilà, il y a une histoire comme ça, féminicide, pas féminicide, je sais pas, en tout cas, voilà, elle est décédée à l'âge de 28 ans.
Ah, c'est une héroïne formidable, et donc elle coche toutes les cases. On va avoir un petit jingle, et après je te repasse la parole.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et au niveau du style de l'écriture, on a parlé des raboteurs de Gustave Caillebotte, là.
Oui.
Tu as travaillé comme ça, tu avais une grosse matière et tu as épuré. Ou bien tu as travaillé sur un scénario, comment tu as fait?
Alors, comment j'ai fait? En fait, c'était dans le cadre d'un texte avec plusieurs figures, puisqu'en fait, j'ai repris mes études, en fait, et j'ai fait une thèse en création littéraire. Et du coup, j'avais plusieurs vies de femmes qui se juxtaposaient. Chantal Ackerman, Ayeu Kusama.
C'était quoi le titre de ton... C'était un mémoire,
hein? Ouais, c'était une thèse, en fait.
C'était quoi le titre de ta thèse?
Alors, ça s'appelait Biofiction. C'était Biofiction de femmes artistes de la scène new-yorkaise des années 60 à 80.
C'est parfait.
Voilà, et donc il y avait plusieurs figures. Il y a certains textes qui ont été aussi publiés déjà. Chantal Ackerman. Ayeu Kusama, Alice Neal, voilà, donc c'est ceux qui ont été également publiés pour l'instant, et donc c'était un travail comme ça, donc non, j'ai pas eu une grande matière que j'ai rétrécie, c'était plutôt des récits relativement courts qui s'ajoutaient les uns aux autres.
Et donc c'est Ackerman à New York?
Également, voilà, ouais, puisqu'en fait ça, toutes ouais. Ces femmes sont passées
et
par New York.
Je tue elle.
Je tue il, elle, exactement. Oui, très beau. Donc. Et donc, effectivement, tu me dis les raboteurs, comment j'ai procédé à... Bah déjà, il y a le tu, hein, ce tutoiement.
Oui, c'est très bon, ça, comme gimmick. Il fonctionne très, très bien.
Tu me parlais de... Donc, je m'adresse à elle, effectivement, il y a ça, mais il y a aussi l'idée de rendre palpable le processus d'écriture. C'est-à-dire que c'est pas un point de vue surplombant, c'est ni je ne me prends pas pour elle, hein, déjà. Et c'est pas non plus elle, comme si on était à distance, qu'on était en surplomb. c'est l'idée, c'est de créer une sorte de zone un peu grise, où c'est à la fois je m'adresse à elle, à la fois je m'adresse au lecteur, à la fois c'est une sorte de voix intérieure aussi, hein, on pourrait imaginer. Et puis ce qui m'intéressait, c'est que finalement le tutoiement, il est très courant en poésie, alors qu'il ne l'est pas tellement dans des formes romanesques. Du coup, je trouvais ça intéressant comme ça. Puis,
à New York aussi. Chez les Américains, c'est beaucoup plus rapide le tutoiement que chez nous.
Ah ben voilà.
Ouais. Je t'ai interrompu, vas-y.
Ah non. Non, je disais, voilà, l'idée de montrer directement comme c'est un ce tutoiement qui rend compte finalement du geste que j'essaie de faire, de créer une distance, mais en même temps une approche. Enfin voilà, d'essayer de rendre visible ça, en fait, ce geste-là.
Et donc tu cherches, oui, une extension du domaine de la créativité féminine en y ajoutant l'apparence.
Oui, ça, tout à fait.
Mais ça jouerait pour Ackerman, par exemple, aussi, donc d'une certaine façon, parce qu'il y a quand même un apparaître comme personnage principal de sa démarche à l'époque. Oui, ça joue. Enfin,
bien sûr, ouais. Oui, elle est aussi un personnage de son cinéma, bien sûr. Ouais. Et alors, pour Ackerman, je me suis plus basée sur sa relation avec sa mère.
Ah oui, bien sûr.
Donc, effectivement...
Oui. Il est très beau, son livre sur sa mère, cette petite mère.
Ma mère rit, ouais.
Ah, c'est une merveille. Hein. Ah oui, j'ai un doute sur un mot dans ton livre, ça me fait penser, parce que j'avais un doute aussi sur un mot dans le livre d'Ackerman. C'est quand tu utilises pénis. Je me dis... Je sais pas... Tu vois, je j'imagine mal que quelqu'un utilise ce mot dans la vie courante, mais... Tu vois, un pénis dans la bouche,
je
ne le mets pas.
Réaliste.
Mais je sais pas, ça me paraît bizarre. Je pense qu'il y a de l'argot, tu vois, si tu... Et en anglais, si tu prends un dictionnaire français anglais d'argot, tu vas avoir une bonne demi-page sur le...
Bien sûr,
tu vois, de possibilités. Oui, bien sûr, oui. C'est un domaine qui est très riche, tu vois. Bon,
absolument.
C'est une remarque en passant, comme ça, mais j'avais aussi...
Non, mais importante.
Ouais, mais j'étais à l'école quand j'avais 10 ans avec Chantal Ackerman.
Donc ah ouais?
Oui, donc j'étais hyper motivé quand j'ai Et donc on était copains quand on était à Bruxelles ensemble à l'école, quand on était jeunes.
Bah, je t'enverrai le livre alors.
Ah ben oui.
Donc, tu vois, ouais. Et donc, ah super, je ne savais pas. Ah ben je suis contente.
Qu'est-ce qu'on a manqué là dans l'évocation de ton livre? Qu'est-ce à côté de quoi on vient de passer là? Qu'est-ce qu'il faut dire avant que l'émission se termine?
Je ne sais pas. Écoute, peut-être qu'il y a plusieurs textes qui ont été écrits sur elle. Je pense par exemple au livre de Véronique Bergen qui moi m'avait beaucoup plu.
Aussi, je ne connais pas, alors c'est quoi comme...
Alors elle est belge.
Voilà, le monde est petit.
Elle est belge, c'est une écrivaine formidable qui a une carrière, hein, qui a déjà énormément de titres à son actif. Et il se trouve que moi j'avais acheté il y a quelques années un livre qu'elle avait écrit, publié chez Aldan sur Edith Sedgwick. Et c'est un texte très très conséquent. Et donc peut-être que moi j'avais aussi envie, pour revenir, tu disais tiens c'est assez court, il y a un côté raboté. Effectivement moi j'avais envie peut-être de me distinguer de ce modèle-là en étant au contraire un peu plus serré, plus court, plus rapide, effectivement.
Il y a un petit côté punk américain là qui est bien, tu vois, chez Alia t'avais un livre qui s'appelle « Please Kill Me » sur les backstage des punks américains, la génération de Lou Reed, qui est un pur chef-d'œuvre. Et ton livre retrouve cette musique chaudement recommandée, Please Kill Me, édition Alia. C'est un fanzine, en fait, les deux auteurs du fanzine de l'époque de la boîte où tout le monde passait, là, les Ramones, tous ces gens-là.
Ok, je note.
Et donc, oui, voilà. T'as des projets? C'est quoi ton prochain livre?
Mon prochain livre, y a un texte encore qui devrait paraître de cet ensemble que j'avais réalisé en thèse, qui serait sur... c'est les deux textes en fait qui restent, sur Valérie Solanas,
oui.
Qui en fait était le premier texte.
Tu la réhabilites alors? Tu réhabilites son geste?
Ah bah je la réhabilite, oui. Mais bon, Elle est depuis assez réhabilitée, je trouve. Donc bon, ça sera
Il y avait la préface de Houellebecq à la réédition de son livre, là.
Ouais, tout à fait. Mais depuis, elle a été surtout réhabilitée. Je pense à Chloé Delhomme, Wendy Delorme, qui a aussi produit... on a retrouvé sa pièce de théâtre, en fait, et Wendy Delorme l'a traduite. Elle s'appelle « Dans ton cul ». Voilà. Et donc, ce sera un texte, en fait, il y aura Solanas et il y aura aussi Lorraine O'Grady.
C'est qui ?
Qui est donc le dernier texte que j'avais écrit dans cette série-là, qui est une artiste vivante, afro-américaine, performeuse. Et donc là, on est plus sur les années 80, en fait. Voilà.
Et donc, elle est comment ? Alors, vas-y, dis-nous deux mots de Lorraine.
De Lorraine O'Grady. Alors, ce qui m'intéressait, c'est que Lorraine O'Grady, elle apparaît en 1980 avec un personnage qui s'appelle Mademoiselle Bourgeoise Noire, en français, dans le texte. Et donc, je trouvais très, très intéressant sa posture de penser... elle dit, à un moment donné, finalement, pour exister sur la scène de l'art contemporain en étant noir, il faut raconter qu'on vient de la rue. Et donc, elle dit, mais moi, je viens pas du tout de la rue. Elle a enseigné à l'université, elle était critique d'art, avant d'être artiste. Et elle dit, voilà, elle apparaît avec ce personnage que je trouvais assez intéressant, Mademoiselle Bourgeoise Noire. Et donc c'est plus voilà sur cette recherche de quelle posture adopter. Elle a un côté assez chevaleresque. C'est aussi pour ça que le texte va se retrouver avec celui de Solanas. Il y a un côté très très combatif en fait qui est affiché. Elle a fait des performances assez récemment presque en Don Quichotte avec une armure où on la voit plus du tout. Alors que effectivement sa figure, sa personne, sa peau, le fait qu'elle soit racisée, était vraiment au centre de son processus. Et voilà. Donc voilà la suite.
Et donc tu as soutenu une thèse, tu vas devenir professeur d'université ou tu es déjà professeur ?
Non, je ne vais pas devenir. Non. Moi j'ai vraiment fait une thèse en écriture créative parce que j'avais envie d'avoir un cadre pour écrire. Et il se trouve que j'ai rencontré, j'ai envoyé mon sujet à plusieurs personnes et Nella Rambazin à Besançon a accepté de me suivre. Donc je la remercie, ça a été trois années qui m'ont permis en fait d'écrire, de prendre le temps, d'avoir quelqu'un qui m'encadrait finalement, qui me faisait des retours.
Une interlocutrice en fait.
Exactement, une interlocutrice qui en plus est une professeure spécialisée en études de genre. Donc non, c'était trois années vraiment intéressantes. Mais je suis jamais allée là avec l'intention d'être professeure. Je crois que j'ai un âge déjà trop avancé pour une carrière et puis j'ai aucun goût pour l'enseignement. Donc vraiment, je suis quelqu'un d'assez bon. Assez timide. Donc non.
J'espère que tu vas vivre de ta plume. Mais enfin, t'es dans le coup là. T'es vraiment. T'es dans le réel, dans l'actuel.
Ouais.
Bon, en tout cas, le livre est bien. J'espère que le soleil synthétique, ça marche. Là, et que tu fais les salons, les foires.
Non, je ne fais pas du tout de salon. Hein. Moi, je suis vraiment ermite. Mais,
bon, il y aura un bouche à oreille, peut-être, qui va fonctionner.
Ouais, et puis je trouve ça bien aussi que les textes...
Vivent leur vie.
Vivent sans les auteurs. Hein. Je crois que, voilà, c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, je voilà, c'est pas mon. Oui.
Et donc, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses ?
Eh ben oui, merci beaucoup, oui, pour ton invitation.
De rien. Et c'est quoi le dernier bon livre que tu as lu ? Il reste 3 minutes. C'est quoi le dernier bon livre que tu as lu ?
Ah, le dernier bon livre que j'ai lu. Eh ben, je crois que c'est le livre d'Hélène Giannichini.
Oui, c'est quoi ?
Un désir démesuré d'amitié, au seuil. C'est un essai sur l'amitié. C'est un peu banal dit comme ça, je le formule très très mal.
Mais intersexe ou hétérosexuel ?
Non, justement, c'est aussi comment dans l'homosexualité... d'autres formes de liens peuvent se constituer, notamment au niveau amical, au niveau familial. Elle revient beaucoup sur la notion de famille choisie. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un essai très très agréable à lire de la rentrée en fait, voilà, tout simplement. Et en fait j'avais suivi son parcours. Elle avait écrit un premier livre sur Alix Cléo-Roubaud. que moi j'avais trouvé magnifique. Et du coup, voilà, c'est un petit peu comme ça que je me suis tournée vers son décès quand j'ai vu qu'elle sortait quelque chose pour cette rentrée. Voilà.
Et toi, tu as publié un livre chez Gorge Profonde, ça me fait penser à...
Gorge Bleue.
Gorge Bleue. Ah non, attention, je reviens en arrière. Parce que j'ai reçu une auteure de Gorge Bleue, et c'était sur le... avec une comédienne, et elles ont lu un texte, et c'était sur le sexe féminin, mais l'objet, cette partie du corps.
Oui, vulve d'Alexia.
Voilà, vulve.
Oui, super. Ouais.
Et on a fait une émission qui était très bien. Enfin, c'est elles qui ont fait l'émission. Elles ont lu le livre. Ouais, c'était très, très bien. Écoute, merci hein, de ton appel. Et je mettrai les références du livre paru chez Mediapop sur la page du podcast.
Eh bien, merci beaucoup, Yves.
Et merci à toi d'avoir répondu. Ciao.
Ciao.
Tu veux que je te remercie ? Je voudrais remercier Didier Robert qui est de l'autre côté de la vitre et qui a opéré magistralement. Merci Didier.